Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève dans La bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui a la bonté dans les yeux et a reçu le prix international des droits humains en 2017 pour son action. C'est Marianne Sébastien. Bonjour Marianne.
Bonjour Viviane.
Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui au micro de Radio Cité.
Et moi donc.
Je suis tellement contente que tu expliques ce que tu fais parce qu'on ne te connaît pas assez et tu fais des choses incroyables.
Oui, je te remercie vraiment.
Alors, tu es la fondatrice de Voix Libre. C'est une association internationale humanitaire qui est politiquement et confessionnellement neutre, il faut le dire, et que tu as fondée en 1993.
Oui.
Qu'est-ce qui t'a amené à fonder cette association, qui est devenue une ONG d'ailleurs, et comment ça s'est passé?
C'est la rencontre avec les enfants des mines. J'ai été comme consultante en Bolivie en 91, ça veut dire il y a 30 ans que je suis en Bolivie en fait. Et puis c'était un projet assez habituel de faire une menuiserie sur l'altiplano. Il n'y avait pas de bois et pas de menuisier.
Donc j'ai pas compris ça. Il n'y avait pas de bois.
Il n'y avait pas de bois et pas de menuisier, mais c'était un projet prévu pour faire une menuiserie. Donc je ne me suis pas découragée, je suis restée sur place. Mais le jour de mon départ a passé une Jeep, juste quand je partais, avec un prêtre qui s'appelait Padre Santiago, qui m'a vu ou qui m'a reconnu et qui m'a dit « Reste là, je vais te montrer tout ce que j'ai fait ». Cet homme avait scolarisé 50 000 enfants, il était juste un amour inconditionnel sur pattes. Et cet homme, je suis restée une semaine avec lui et je lui ai envoyé toutes mes économies, je suis rentrée. Puis 6 mois plus tard, il est mort, mais la veille de sa mort, il est monté à Potosi et il m'a envoyé tous les projets. Donc je me suis retrouvée avec tous ces projets qui sont tombés du ciel et j'ai créé Voix Libre.
Alors, on va quand même découvrir qui tu es. Et tu sais qu'il y a une question rituelle dans cette émission. Quelle petite fille étais-tu, Marianne?
Petite fille muette. Je devais pas...
Ça a changé. Hein.
Ça a changé, quoique.
Quoique.
Quoique. Ça veut dire que muette sur le plan profond, parce que j'avais un frère qui était handicapé, et du coup, il fallait être gentil. Et comme je suis gentil de nature, ben je disais rien de mes succès. Je réussissais toutes les écoles, j'étais première et tout. On m'a avancé d'une année.
On va te poser une autre question. Alors, où es-tu né et dans
quel... Je suis né à Yverdon, le jour de Pâques. À midi, les cloches sonnaient et des sœurs chantaient sur mon berceau « Gloire à toi, ressuscité ».
Donc, superbe.
Superbe. Donc, je n'ai vu dans les yeux des gens que la résurrection possible. Et quand je vois un gamin au fond de la mine, même qu'il pleure et qu'il dit qu'il va mourir, je sais qu'il va être un grand entrepreneur. Je sais qu'il a trouvé au fond de la misère la force de devenir un abondant et un généreux.
Alors ça, c'est justement, j'allais dire, le résultat de 25 ans de lutte. On va en parler tout à l'heure. Mais je voudrais revenir. Donc, tu es né de parents suisses.
Oui.
Tu es allé à l'école à quel endroit?
À Lausanne.
À Lausanne.
J'ai fait mes écoles à Lausanne, l'université.
Donc tu étais une bonne élève, si je comprends bien.
Oui, j'ai fait l'université, formation en lettres, j'ai fait formation musicale au conservatoire, j'ai fait formation littéraire, oui.
C'est-à-dire tout ça. Pourquoi tout ça?
Parce que j'ai toujours été en quête, en recherche. Donc la vie a fait que comme j'étais muette et que je ne comprenais pas d'être dans un pays où on ne s'exprimait peu... J'ai voulu m'exprimer. S'exprimer, c'est le contraire de déprimer. Et puis, je savais que j'avais un potentiel, que j'avais envie de hurler la beauté de la vie et de remplir les cathédrales. C'est ce que j'ai fait.
Alors, tu as commencé, donc tu termines tes études et là, tu fais quoi? Tu es la jeune femme de 20 ans. C'est qui? La jeune femme de 20 ans, c'est qui, Marianne? On a besoin de comprendre.
J'étais déjà condamnée à me marier, si j'ose dire.
Tu as été condamnée à te marier?
Oui, j'ai marié un homme, un politicien, futur politicien écologiste, avec qui ça a été très difficile. Et je me suis un peu enterrée dans un mariage pas simple et pas très aimant. Et j'ai eu un enfant qui est né sourd. Donc je me suis trouvée avec en pleine carrière de cantatrice, j'ai un enfant qui est né sourd.
Alors,
profond.
On ne sait pas que tu es devenue cantatrice. Tu vois, là, tu as brûlé un peu les étapes. Donc à quel moment... As-tu choisi de ne pas faire les lettres, puisque tu avais étudié les lettres, donc tu as choisi une carrière de cantatrice. Et là, ça a démarré comment, ta
carrière? Parce que j'ai fait aussi le conservatoire en même temps. Donc j'ai fait des études au conservatoire, j'ai une bourse d'études pour chanter en Italie, j'ai chanté en Allemagne, j'ai chanté...
Tu as quel âge quand tu démarres tout
20,
ça?
De 20 à 30 ans, je me suis formée beaucoup en musique. Mais ce que je cherchais, c'était exprimer la vérité par le chant, c'était exprimer la profondeur. Et je n'ai pas trouvé ça en carrière. Donc j'ai été jusqu'à l'Acte Studio à New York, j'ai été partout pour chercher Et partout, c'était la technique numéro un et l'être numéro deux. Et moi, je savais que j'étais capable de chanter du fond de mon être la vérité de qui je suis. Et comme je n'ai pas trouvé, j'ai inventé des stages qui aident les gens à trouver qui ils sont en un week-end en exprimant leur voix.
Alors attends, les stages, c'est peut-être aujourd'hui, c'est peut-être pas à l'époque.
Si, tout de suite. J'ai arrêté ma carrière, j'ai fait des stages.
Alors, tu as arrêté ta carrière de cantatrice, donc dans les années, tu avais quoi, une trentaine d'années ?
Voilà.
Et le mari, ce mari-là ?
Je me suis divorcée ensuite.
Voilà. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ?
Ben, j'étais dans une mission en Bolivie et c'est là que ça change.
Mais comment as-tu eu l'idée d'aller en Bolivie ?
J'ai aucune idée, j'ai toujours la vie faire. Un soir, j'avais une réunion à Genève et il n'y avait personne.
Une réunion
De thérapeute. Et moi, je devais parler de l'écoute puisque j'ai beaucoup travaillé avec mon fils pour qu'il récupère Louis et qu'il l'entende et qu'il parle. Et aujourd'hui, tout le monde m'avait dit « il ne parlera jamais ».
Et moi, aujourd'hui, il parle.
Il parle comme toi et moi, français, anglais, il est dessinateur architecte à la ville de Lausanne. Donc, tu vois,
bravo.
J'ai cru personne sur les limitations qu'on m'a dit. Et voilà. Et un soir, j'avais une réunion de thérapeute, ils n'étaient pas là, il n'y avait personne. Alors, j'ai regardé le journal à Genève et c'était mis « Musique bolivienne à la salle Patiño ». Bon, pas très ami avec Patiño, qui a été le...
Je connais.
Tu connais, d'accord, qui a été le propriétaire des mines, etc. Et puis, la musique...
Des mines d'étain.
Oui. Ouais, mais ça a déteint fort sur le destin des gens, je dois dire.
Oui.
Donc, je suis allé à la salle Patiño, j'ai suivi ma voiture pratiquement, ça avait commencé le spectacle, et je suis descendu pour me mettre, pour déranger 10 personnes pour m'asseoir à un certain endroit, en me disant, mais qu'est-ce que je fabrique ? Ben, je savais qu'il fallait être là, où mon âme savait.
Tu avais un sentiment profond.
Oui. Voilà.
J'ai été menée quelque part.
J'ai été menée, toute ma vie a été comme ça. Je vous le dis parce que tout s'est passé comme ça, j'ai suivi mes pas. Et là, quand la lumière s'allume, il y avait un petit Bolivien à côté de moi qui allait partir en mission en Bolivie. Et il m'a dit, mon assistante est malade, venez m'aider. En fait, c'était pas vrai du tout. Mais j'ai dit oui en 10 minutes, alors que je ne savais pas l'espagnol. Et je n'ai pas dit que je ne savais pas l'espagnol, que j'ai appris en un mois. Et je suis allé en Bolivie. C'est comme ça que j'ai débarqué là.
Alors là, on est en quelle année, Marianne, pour pouvoir te suivre parce que,
c'était il y a 30
ans. Parce que comme tu as fait beaucoup de choses et que tu sautes beaucoup d'étapes
C'était au début,
que tu
c'était il y a 30 ans quand j'ai fondé Voix Libre. Il y a 30 ans. J'ai tout de suite fondé Voix Libre quand j'ai vu les enfants des mines.
D'accord. Donc on est en 93 là.
Voilà.
D'accord. Et à ce moment-là, tu arrives en Bolivie, tu rencontres ce prêtre, c'est bien ça.
Voilà.
Et là, tu te dis que ta vie, ça va être là.
Je ne me suis rien dit du tout. Parce que je ne me dis jamais rien, moi.
Tu
je laisse la
rien.
Vie me souffler des secrets. Donc, je me suis trouvée dans la mine et tellement heureuse d'aider tous ces gamins. J'en ai sorti plein de la mine.
Attends,
j'ai fait une première maison.
Donc, tu vas dans la mine parce que ce prêtre t'a, au fond, montré la voie.
Voilà.
D'accord. Et là, il se passe quoi dans la mine ? Donc, tu descends dans la mine.
J'ai rencontré un enfant qui allait mourir. La nuit, j'ai logé toujours avec les gens, jamais à l'hôtel et tout. J'étais comme eux, j'ai rien gagné pendant 15 ans. Donc, ça a changé toute la façon de fonder cette association, transparente, 100% pour eux. Et une nuit, on est venu, quand j'étais là-bas, une nuit, on vient nous chercher, il y a un gamin qui mourait dans la mine. Et je suis allé dans la mine, et ce gamin, en effet, avait respiré des nappes de cyanure et d'arsenic, et il était à moitié mourant. Et quand il y a un petit film là-dessus, il s'appelle Abraham. Quand on lui dit « Comment tu te sens ?» Il dit « Bien ». « Comment c'est dans la mine ?» Il dit « Bien ». Et ça exprime tout le tragique du destin des gens qui vivent un enfer, mais qui disent que ça va bien.
Et pourquoi ?
Parce qu'ils
connaissent rien d'autre.
Parce qu'il faut quitter le fatalisme. Et ça a été tout mon travail de 30 ans, de hurler, de témoigner, de participer avec eux, de les accompagner pour qu'ils osent dire « Ça va mal, je meurs, aidez-moi ».
Et celui-là, il a osé le dire.
Bien sûr, il est devenu éducateur des autres.
Oui, magnifique. On va écouter un peu de musique. Qu'est-ce que tu nous as choisi ?
Oh, de la musique classique. J'adore Bach par-dessus tout. Et cet adagio, il nous emporte au ciel. Il fait le lien entre le ciel et la terre. Et j'adore.
Radio Cité Genève. Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, dans la bouteille à moitié pleine, avec Marianne Sébastien. Marianne, j'ai dit tout à l'heure que tu avais la bonté dans les yeux, mais je le pense de plus en plus. Et je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas la télévision et que ce soit de la radio et qu'on ne puisse pas voir ton merveilleux regard et cette animation qui s'empare de toi quand tu parles de ces enfants que tu as sauvés. Alors moi, j'ai sur ma table un papier que tu m'as donné, un document. C'est Louis, 10 ans, 1 kilomètre sous terre dans les mines de Potosí en Bolivie, à 4500 mètres d'altitude, qui dit « Je travaille de 7h du matin à 7h du soir » sans voir la lumière du jour, aidez-moi, je ne veux pas mourir, aidez-moi à sortir de cet enfer. » Et c'est ça que tu as fait, Marianne. Explique-le, s'il te plaît, parce que ça a été toute ta vie, une grande partie de ta vie.
Oui. Et chaque jour, ça veut dire que... J'ai envie de te dire, c'est ces enfants-là, parce qu'ils ont vécu une souffrance pareille, qui dirige aujourd'hui la fondation. À Potosí, j'ai 13 coordinateurs aujourd'hui, qui sont des gamins qui ont vécu dans la mine ou qui ont vécu la misère noire dans les campagnes.
Donc au départ, on est d'accord, il y a des enfants perdus, littéralement, des enfants que tu ne sais pas, que tu dois rééduquer. Tu arrives à les sortir de là en les envoyant à l'école. Comment fais-tu? Les débuts, s'il te plaît, pour qu'on comprenne.
Ben, je suis allé dans les mines, j'ai rencontré les femmes, je leur ai donné tout de suite du microcrédit. Tout le monde m'a dit, c'est presque moqué, a dit, mais on donne pas les femmes misérables, elles vont jamais rembourser. Oui, elles ont remboursé, parce qu'elles se sont entraidées, parce qu'on les a formées, etc. Et les gamins, on les a sortis des mines pour les prendre dans une première maison, où j'ai eu 25 gamins, une maison très pauvre. Et puis tout de suite, les amis...
Donc tu as créé un village, hein, c'est ça?
Oui, j'ai créé une espèce de village, puis après on a créé un grand centre à côté, où on a pu accueillir jusqu'à 100 gamins. J'avais 100 gamins qui vivaient là, qui mangeaient là, qui mangeaient en silence tellement ils étaient heureux de manger, qui s'exprimaient, à qui on parlait des droits humains, à qui on a fait faire du watsu, et plein de thérapies pour libérer leur intérieur. Parce que j'ai tout le temps su que les gens qui ont beaucoup souffert ont creusé leur cœur, qui peut être rempli justement de bonté et de... En fait, les gens ne comprennent pas que le premier besoin de l'être humain, c'est d'aider les autres. Quand on a aidé les autres, on est heureux, on est rempli. Alors que les besoins, dans la pyramide de Maslow, c'est les besoins physiques, le lit, d'avoir une table, d'avoir à manger. Non, le premier besoin, c'est une vraie conscience. C'est l'amour, c'est selon à quoi on croit, c'est Dieu, c'est la passion, mais c'est pas des trucs matériels qui te remplissent l'âme. Donc quand on vit...
Tu les emmènes pas dans la tombe.
Ben non.
Alors que les relations que tu as faites, les relations humaines, les connexions, je suis persuadée que tu les emmènes avec toi.
Bien sûr. Donc ça veut dire que c'est tous ces gamins qui ont pris conscience de leur potentiel, qui ont rempli nos maisons de rire et de joie, qui ont écrit des poèmes. Il y avait des gamins qui sortaient de la mine. Et moi, je leur faisais des jeux, je leur disais « dis n'importe quoi ». Et ils disaient « je suis la résurrection, je suis le condor qui regarde la goutte d'eau multicolore, je suis la beauté du monde, je suis le chemin qui illumine tous ». Ils disaient des trucs comme ça. Donc j'ai toujours su qu'au sous les problèmes, et sous la noirceur, ça c'est pour tout le monde que je le dis, sous la noirceur, on a au fond de nous un ciel bleu, on a une oasis, on a le chant d'une cascade. Et quand je fais des thérapies dans mes stages, c'est tout le monde tombe sur de la beauté au fond de soi, sous les problèmes de papa, de maman, de l'injustice, des souffrances.
Alors, tu as décidé de vivre en Bolivie à cette époque-là?
Ben, j'y allais 3 fois par année, 2 mois, je vivais
donc
pas.
Donc 6 mois,
ben mois oui, de j'avais l'année. Beaucoup. Ben, le reste du temps, je venais chercher de l'argent ici, faire des journaux, faire de la com, pour que ça marche.
Et alors, ta vie privée, c'était quoi à l'époque?
Ma vie privée, c'était j'étais mariée avec les enfants du monde qui souffrent.
Oui.
Et c'est ma grande joie. Hein. Donc, il y en a qui me disent que j'ai sacrifié ma vie, mais le sacrifice, c'est quelque chose de sacré qui t'emmène là où tu dois vivre, là où tu dois être. Alors, j'ai vécu une vie sentimentale à ma façon, mais pas d'attache et de mariage qui fait qu'on ne s'intéresse qu'à 1 ou 2 ou 3 personnes. Oui. Et la conscience, c'est quoi? Et l'amour, c'est quoi? C'est d'aller le plus loin possible. Tu vois, on parle de la conscience ouverte, de la conscience universelle, c'est quoi? C'est d'aller le plus loin possible, c'est pas de penser qu'à sa petite famille, c'est de penser à sa région, de penser au monde entier. Quand on pense, quand on se branche à un gamin du monde, alors on est branché à tous les enfants du monde qui souffrent. On voit les enfants du Yémen, on voit les enfants des camps de concentration, les enfants des camps de réfugiés à Bidi Bidi, ou en Afrique, où je travaille aussi, et on dit oui à tout ce qui nous arrive, toutes les demandes qui nous arrivent.
Marianne, tu m'as envoyé des petits films que j'aimerais beaucoup avoir la possibilité de diffuser. Dans ces petits films, on voit aussi que les enfants ne travaillent pas seulement dans la mine, mais aussi dans les ordures.
Oui.
Raconte ça, c'est terrible.
Eh ben, j'ai rien voulu. J'étais un soir à Cochabamba, en Bolivie, et je mangeais une glace et un gamin qui pleurait en bégayant. J'ai pas compris ce qu'il voulait. Puis j'ai dit, écoute, demain à 10h, on se trouve là, tu m'emmènes, je comprends rien. Il m'a pris par la main et j'étais jusque dans les ordures. Au début, j'ai cru qu'il y avait des oiseaux, parce qu'il y avait plein de trucs noirs dans le ciel, c'était tous les sacs de, il y avait du vent et tous les sacs à poubelles qui volaient. Et il y avait 15 kilomètres de déchets, des gens qui travaillaient comme des animaux. On voyait pas la différence entre les sacs et eux, ils étaient en haillons et ils broutaient ce qu'ils trouvaient dans les sacs. Et c'était un grand choc. Et ils avaient construit une maison en carton qu'ils appelaient la cathédrale. Alors j'ai fait une réunion dans la cathédrale avec tous et j'ai commencé à leur donner du microcrédit. Ce que personne n'aurait imaginé, parce qu'on dit on va leur donner quelque chose à ces pauvres. J'ai jamais considéré les pauvres comme cela, je ne les ai jamais assistés.
Voilà.
Donc je leur ai donné tout de suite du microcrédit et ça a marché. Mais ça a été long comme lutte. Si.
Mais comment as-tu pu les former? Parce qu'il a fallu les former.
L'amour. L'autre jour, ils m'ont fait un projet en Bolivie, c'était très bien, j'ai dit, mais vous oubliez juste que la phase 1, c'est l'amour, la phase 2, c'est l'amour, la phase 3, c'est l'amour. Quand on se base en organisation communautaire sur la vraie relation qu'on a avec eux, ça marche. Et moi, j'ai vécu avec eux dans les ordures. Ils savaient que j'avais pas un sou, j'étais pas à l'hôtel, j'étais aussi dans une vieille maison, et j'avais mon sac bleu avec tout dedans, je le laissais le matin à un gamin, le soir je le retrouvais, ils ne m'ont jamais volé. Donc ça veut dire que quand on vit avec eux, qu'on chausse leurs mocassins de souffrance, on a une relation complètement différente. Et c'est comme ça que... Puis aussi très exigeante. Un jour, je leur ai dit, écoutez, j'en ai marre. Hein, parce que vous êtes... Il y en a qui continuent dans les ordures. On en avait déjà enlevé la moitié. Qui, avec du microcrédit, c'est des activités. Ils vendaient du jus d'orange, des pop-corn. Je leur ai dit, écoutez, c'est simple. Maintenant, on va être clair. Je vais aider ceux qui veulent s'en sortir. Donc, ceux qui veulent mourir. Vous vous mettez à gauche. Ceux qui veulent vivre, vous mettez à droite. Et c'est comme ça qu'on a fait le tri. Avec ceux qui avaient déjà une conscience plus élevée. À ceux-là, on a donné plus de microcrédit, et les autres, ils se sont ralliés peu à peu, après avoir décidé inconsciemment ou petitement que la mort était pas nécessaire.
On va écouter un peu de musique à nouveau. Alors, ça tombe bien. Qu'est-ce que tu veux nous faire écouter?
Whitney Houston, le cri de Whitney Houston, ouais, « And we always love you », parce que c'est que cette relation d'amour. Hier soir à 11h, j'avais un téléphone d'une femme des ordures qui a pu construire sa maison avec un microcrédit, Maria. Elle est vieille comme tout, elle vit toujours, je suis étonné, elle a peut-être 90 ans. C'est la première qui a eu le choléra dans l'endroit où j'étais. Et un jour, je l'ai croisée, elle avait quatre murs, et elle disait je suis dans ma maison, il n'y avait pas encore le toit. Mais avec son microcrédit, c'est elle qui a payé sa maison. Donc c'est rendre les gens dignes et dans les ordures. Et Whitney Houston va le dire.
Radio Cité Genève. Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And that is all I'm taking.
with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need.
Vous êtes sur Radio Cité Genève dans la bouteille à moitié pleine avec Marianne Sébastien. Marianne qui est la fondatrice de Voix Libre, une association qu'elle a fondée en 1993 et qui s'occupe principalement d'enfants, mais on va le voir aussi de femmes. Raconte-nous ça, Marianne. Tu t'es occupée aussi de protéger les femmes de la violence.
En écoutant mon intuition, un soir à Potosi, donc une ville où il y a 8 millions de morts en 3 siècles dans les mines, personne n'y croit, mais c'est la vérité, j'ai vu tant de gens mourir là-bas. Et un jour, à force de voir des femmes dans la mine qui souffraient, j'ai dit, écoutez, c'est bon, on a déjà hébergé 100 gamins dans notre maison, mais il faudrait peut-être qu'on s'ouvre aux femmes, parce que quand elles souffrent, qu'elles puissent venir ici, qu'il y a un numéro d'urgence, qu'elles puissent venir et qu'on accueille des femmes en sang aussi. Eh bien, tu me croiras ou pas, le soir, à minuit, ça sonnait chez nous, et il y avait une femme en sang qui arrivait. Tout a commencé avec cette pensée d'ouverture. Et la réalité est à une pensée de distance de l'intuition qu'on a. Et il y a cette femme qui est arrivée avec ses 3 gamins. Elle a dormi dans la chambre à côté de moi. Et le matin à 7h, je lui dis, viens, maintenant je vais te montrer la maison. Je peux t'engager comme cuisinière, tu peux rester là. Elle avait été gravement blessée. Elle avait une bouteille de verre qu'on lui avait cassée sur la tête et dans ses mains. Et la femme, elle avait voulu retourner chez elle, vers son cher mari qui l'avait tabassé.
Pourquoi est-ce qu'elle a voulu retourner chez elle?
Comme toutes les femmes qui ont été blessées, parce que simplement, comment elles vont faire, son mari, son argent, puis le mari va les tabasser encore plus, puis toute la communauté est contre elle quand elle quitte. Donc j'ai compris l'ampleur de la tâche, et ça continue aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui on a créé, peut-être je dis juste où on en est, aujourd'hui on a créé un observatoire de la justice avec un numéro d'urgence, avec les gamins du début qui sont devenus avocats, qui dirigent ça, avec Mercedes qui est devenue une des meilleures avocates de Bolivie, et on a signé avec le gouvernement, il y a quelques mois, un contrat où, pour qu'ils soutiennent notre observatoire de la justice à la PASS, avec le gouvernement et tous les ministres. Et c'est eux qui ont fait appel à nous pour qu'on forme à la non-violence l'armée et la police de Bolivie. En grand résumé,
c'est un succès incroyable pour toi, Marianne, ça.
Bah, c'est une joie hallucinante, parce que d'habitude, les ONG, on se protège pour pas être viré. On n'a jamais eu de soucis, parce qu'on a toujours été très gentils avec tout le monde. J'ai vu tous les présidents, et ils ont tous été très touchés par tout ce qu'on fait, de sauver tant de gens, ce qu'ils n'ont jamais fait eux. Mais simplement que le gouvernement comprenne que l'urgence, c'est de protéger les mamans, celles qui donnent la vie, et de les voir autrement, et d'arrêter le machisme ambiant.
Alors, j'ai lu dans les documents que tu m'as confiés, j'ai lu que tu avais fait une sorte de contrat avec les hommes, un contrat de non-violence en leur donnant une pilule. Raconte tout ça, parce que ça m'a semblé assez incroyable.
Ben, c'était la pilule de non-violence magique qu'on leur a donnée quand on faisait des contrats. Ils ont élaboré, eux, dans des prisons surtout, j'ai beaucoup travaillé dans les prisons, avec tous les hommes violents, les délinquants. Je leur ai dit, c'est à vous de faire les règles d'or de la non-violence. Comme ça, ils ont dû se creuser la tête. Et ils ont dit, oui, c'est passer plus de temps avec mon enfant, c'est l'emmener promener, c'est respecter leur maman, c'est bon. Et puis, on leur donnait des vitamines C, parce qu'ils n'étaient pas bien, mais on leur disait que c'était la vitamine de l'amour et qu'ils allaient être beaucoup plus gentils. Mais surtout, en prison, ce que j'ai fait un jour, c'est que j'ai dit, écoutez, j'en ai marre, mes amis, soit vous décidez d'être des hommes de paix, ou vous continuez à être des assassins. Il y a eu un grand silence. Le lendemain, nous sommes arrivés avec 200 petites bassines de plastique, parce qu'il y avait 200 hommes. On a mis de l'eau dedans, et je leur ai dit, écoutez, qu'est-ce qui a fait de la violence? C'est vos mains. Vous avez tapé, vous avez tué, vous avez crevé les yeux, vous avez fait des choses horribles. Lavez vos mains maintenant, silence. Un quart d'heure de silence dans une prison, bouleversant d'ailleurs. Et ils ont tous lavé leurs mains en fermant leurs yeux, en pleurant, tout ça. Puis après j'ai dit, c'est bien, maintenant tous ceux qui veulent être hommes de paix, venez. Et on a fait un premier groupe avec 50 mecs qui ont été les premiers hommes de paix. Et l'année passée, on a fait de la formation à 2000 hommes de non-violence, avec un Sherman, qui est un coordinateur extraordinaire, spécialiste en thérapie, avec tout le groupe qui fait de la thérapie. Et sur 2050 hommes qu'on a formés à la non-violence, il n'y a eu que 5 récidivistes. Donc ça marche.
Incroyable. Marianne,
oui.
Tu es une faiseuse de miracles.
Il n'y a que ça qui m'intéresse. Hein. Je suis née le jour de Pâques, il ne faut pas oublier. Donc je sais qui je suis.
Je voudrais que tu lises le poème que tu as écrit et qui s'appelle « Je suis les enfants ».
Oui. Je suis les enfants. C'est une nuit, je me suis réveillée à 4h du matin en pleurant, et en fait, j'ai revu tous ces enfants que j'ai vus, tremblants de peur, hallucinants. Enfin, j'étais hallucinée par tout ce que j'ai traversé. Je dis, je suis, du verbe être, je suis les enfants. Mon point d'acupuncture cosmique, c'est la souffrance des enfants, miroir de l'infini de l'amour. Mes larmes sont celles des enfants, qui ne comprennent rien à leurs tourments, qui souffrent en acceptant, qui toussent et que rien n'apaise, qui triment et que personne ne sauve. Je tremble pour l'enfant quand je le vois la hache près du bois, la hache de l'homme ivre qui va rentrer. Je souffre pour l'enfant qui garde tout, qui ne sent plus rien, ni ses pieds froids, ni les menaces de mort. Il ne demande jamais de l'aide, mais il tord ses petites mains dans tous les sens. Il lave et relave tout ce qui est sale, sans eau ni savon. Il doit toujours ranger ce qui n'a plus d'ordre. Je m'incline devant l'enfant, devant son silence qui ressent tout, le ciel et les ténèbres. Ils sont du monde d'en bas, sous la terre. Ils sont juste là, échoués et seuls, sans question ni repère. La seule histoire est celle de leur souffrance, eux qui sont l'emblème de la quintessence. Victimes du pire venin, celui du cœur des hommes. Les enfants ne construisent pas des musées et des mémoriaux. Leur mémoire est celle de l'instant et ils font un avec la lumière vive. Je suis les enfants. J'entends leurs hurlements silencieux et leurs larmes contenues, leurs cœurs fissurés. Ils voudraient se rebiffer, ils obéissent. Ils voudraient griffer, ils font patte de velours. Ils voudraient tuer. Ils se figent. Et puis il y a ceux qui deviennent soldats, et ils tirent sans broncher, ils obéissent. Et ceux qui se laissent toucher sans bouger, ils n'ont pas le droit de réussir pour ne pas trahir leur souffrance. Je marche avec les enfants dans leurs chaussures trouées, les pieds sales et blessés. Mon cœur est sous terre avec ceux d'en bas. Leur sagesse, c'est d'être personne. Juste fruit de Dieu, enfant de la lumière, humble prince du vrai. Je pleure sur votre solitude, enfant des guerres et des prisons, enfant des mines, des taudis et des rues. Quand je revois le cortège de vos bagnes, je vous aime. Et j'admire combien vous savez vous ajuster à la vie, comme les rayons du soleil à travers les ronces.
Marianne, c'était très beau. Et pour ces enfants, on le redira tout à l'heure, je voudrais que tu l'expliques, on doit essayer de les sauver. Et tu pourrais expliquer, s'il te plaît.
Oui, ben c'est vrai que je serais très très heureuse que vous parrainiez les enfants, vous qui nous écoutez. Parce qu'on a une trentaine d'enfants maintenant, ce dernier mois, qui sont les enfants des femmes qui ont été tuées, des féminicides. On a un féminicide par jour en Bolivie. Et on a des cités de la bonté dans lesquelles on les accueille. On a une maison entière et on a besoin pour une trentaine de gamins qui viennent d'arriver, qui ont vu leur maman tuée. Ils ont vu le papa planter le cœur avec un couteau dans le cœur de maman. Et un mois plus tard, on les voit tout heureux. Une semaine plus tard, déjà, ils commencent à revivre grâce à un parrainage. Donc, un parrainage, c'est 30 francs, 50 francs par mois pour qu'ils aient vraiment le minimum. Mais c'est libre. Ça veut dire qu'on peut remplir un talon sur Internet ou vous pouvez aussi me faire un mail, marianne@voixlibre.org. C'est facile, marianne@voixlibre.org.
Voix libre, alors voix libre s'écrit voixlibres.org.
C'est marianne@voixlibre.org. Et puis vous pouvez nous téléphoner, on est à la rue des Grottes, derrière la gare.
Redonne le téléphone, s'il te plaît.
C'est 022-733-0303. 733-0303. À Genève 022. Et on vous répondra très gentiment pour vous expliquer. Mais en plus, je vais vous dire qu'on tous les vendredis soirs, à partir de 5h, il y a un apéritif, un accueil, on montre des films et on raconte. Et on a une belle boutique aussi, avec l'artisanat de Bolivie, mais aussi d'Inde et des choses en soie.
Et, et vous êtes bienvenus. Mais c'est pour la bonne cause. Hein. Oui. Nos auditeurs l'ont compris. Qu'est-ce qu'on écoute maintenant, Marianne? On écoute de la musique.
Ben, on écoute peut-être Dimitri, qui est un de mes chanteurs préférés, la plus belle voix de Russie, qui va chanter un air bouleversant, un air russe bouleversant sur la place rouge. Et vous regardez-le aussi en vidéo, Dimitri Vorostovsky, qui est mort d'un cancer hélas, de la tête à 50 ans, et qui a eu des obsèques nationales. C'est une des plus belles voix du monde, et il est bouleversant. Écoutez-le.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земных. За ошибки прощали,
stets wärmer glimmt. Ich schwang na Zemlje, nie prachodit bezsledne. I juna slušečaja staže besmjertna. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая в саже бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, dans la bouteille à moitié pleine. Je reçois quelqu'un, vous le savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a la bonté dans les yeux. Je pense que depuis tout à l'heure, en écoutant cette émission, vous en êtes de plus en plus persuadé. C'est donc Marianne Sébastien. Marianne, tu as reçu en 2018, alors tu as reçu beaucoup de prix, on va en parler quand même, parce que nos auditeurs se rendent compte de l'importance de ton œuvre et de ton action. Mais selon le journal Bilan, en 2018, tu as été nommée femme leader. C'est pas rien, ça non plus. Et puis, tu as fait une conférence à l'ONU le 8 mars. Oui, raconte-nous ça.
Ben, j'ai été parler des femmes et de la situation des femmes dans le monde.
Et à l'ONU.
À l'ONU, oui, c'était le 8 mars, on m'avait demandé de le faire. Puis j'ai eu le prix Femme Entrepreneur aussi en 2007 par les femmes suisses. J'ai eu le prix Jean-Jacques Rousseau. Enfin, j'ai eu beaucoup de prix.
J'ai eu beaucoup de prix, effectivement.
Oui, on a eu énormément de prix.
Et tu es, comme tu es d'une grande modestie, on ne le sait pas. Mais je pense que pour soutenir ton effort oui. pour que les gens qui nous écoutent se rendent compte du sérieux de ce que tu fais. Oui. C'est important de citer tout ça. C'est pas de l'immodestie. C'est important de montrer le sérieux oui, de merci. Ton action.
En tout cas, merci de m'inviter parce que j'admire beaucoup Radio Cité, tout ce que tu fais et la qualité. Donc je suis très contente parce qu'en effet, s'il y a des mécènes qui veulent nous financer un observatoire de la justice, on doit acheter une maison de la justice maintenant qui coûte 88 000 francs pour pouvoir inviter à y habiter une vingtaine de jeunes filles qui viennent. Il y en a qui viendront du lac Titicaca, de Potosi, des endroits où je n'aurais jamais pu étudier. On va leur financer des études d'avocate et dans 5 ans, on aura 20 juges qui pourront induire en Bolivie une meilleure justice et une justice vraie et prendre soin des femmes et des enfants et éviter les féminicides. Donc là, c'est une bourse d'études pour une fille qui étudie le droit, c'est 80 francs par mois et on finance ses études pendant 4 ans et après, elle va changer la justice pour des milliers de personnes. Donc c'est vrai qu'on a besoin de beaucoup de soutien et c'est vrai que toutes ces recommandations peuvent vous donner confiance parce que 100% de l'argent va là-bas. Hein. Moi j'ai le SMIC et on n'est que 3 salaires à voie libre et que des bénévoles.
D'ailleurs, tu as été reconnue comme l'ONG la plus transparente.
Oui.
Ça aussi, ça a été un prix.
La plus courageuse, parce que là où on va, personne ne va. Et je peux vous dire que partout où j'ai vécu, que ce soit dans les mines, dans les rues, dans les ordures, Sergio, qui est mon assistant adoré, qui est ici, lui, il a vu dans la rue, quand j'allais à minuit, à 2h du matin, tout le monde avait peur. Hein, et moi, non. Je n'ai jamais pensé qu'il fallait avoir peur. Quand on a des milliers de vies sur les épaules, on n'a pas peur. Et c'est vrai que j'ai trouvé une fois 80 gamins dans un tunnel et j'allais tous les soirs les voir. C'est comme ça qu'ils ont eu confiance. C'est comme ça que je me suis fait ami avec eux. C'est comme ça qu'on a commencé ensemble en mangeant un sandwich, un poulet que je leur ai offert. Et de ces gamins sont sortis des leaders qui étaient sous un tunnel. Carlitos qui dirige aujourd'hui toute la population des ordures. Il voulait suicider un jour, je lui dis ouais ok, mais tu te suicides pas aujourd'hui, demain, parce qu'aujourd'hui j'ai besoin de toi. Je l'ai emmené dans les ordures, il a fondé une boulangerie, puis il a fait un centre pour tous les enfants des ordures, puis aujourd'hui il est devenu grand leader, coordinateur dans les ordures, alors qu'il était une mythe, on les appelle une mythe les gamins des rues là-bas, une poussière de vie.
Alors Marianne, tu dis que les projets qui fonctionnent, ce sont ceux qui sont portés par les bénéficiaires eux-mêmes.
Oui.
Et tu regrettes beaucoup que l'énorme argent versé par les grands pays occidentaux dans des programmes de développement ait des résultats très mitigés. Tu peux nous parler de ça parce qu'en fait c'est un immense gaspillage en regard de ce que tu fais toi avec peu d'argent, peu de moyens.
Eh bien, ça veut dire que on pense avoir le savoir et on importe notre ethnocentrisme dans les pays pauvres. Et moi, j'ai vécu ça dans plusieurs pays, donc j'ai dit non, on va pas faire comme ça. J'aime trop les gens qui souffrent pour que ne pas écouter leur message. Et eux sont capables. Les spécialistes de la misère, c'est les misérables. Les spécialistes de la violence, c'est le violenté. Quand on divorce, on va pas aller parler à des gens qui nous disent « Ah, mon mari, il est tellement gentil ». On va dire non, on va parler entre divorcés, entre gens qui connaissons.
Bon, on peut divorcer de mari gentil aussi.
Oui, justement.
Et rester amis avec eux.
Oui, mais j'entends, on a besoin de communiquer avec des gens qui ont vécu la même chose, sur la même vibration. Donc, ce dont ils ont besoin, c'est pas d'analyse à distance, de décisions rationnelles froides, ni de convictions préalables, ou de domination top-down. Mais ce dont ils ont besoin, c'est d'écoute patiente, d'intuition, de modestie intellectuelle et beaucoup d'amour, avec ce lien secret entre l'intériorité et l'extériorité. Donc ils n'ont pas besoin d'un expatrié qui arrive avec pour vérifier les comptes, mais ils n'ont pas besoin d'une analyse sociale et de prévision à 3 ans pour savoir ce qu'il faut. C'est vraiment dans le présent et dans l'écoute profonde qui se sentent respectés, qui vont devenir quelqu'un.
Ça change beaucoup comme approche.
Énorme. Parce que c'est plus du top-down, mais c'est du bottom-up, comme on dit, ça veut dire avec des valeurs autant féminines que masculines, une capacité d'apprendre à aimer pour nous, les non-aimables, d'accepter que chacun a son niveau de conscience maximum et qu'ils en sont là. Donc il n'y a plus de jugement. Moi, je n'ai jamais jugé les gens. Je me dis, bon, ben, ils en sont là. Les mecs qui tuent, ils ont tué, mais simplement, évitons que les suivants fassent pareil. C'est pour ça qu'on a mis en place plein de techniques pour eux, pour même aimer les assassins. Et c'est pas les aimer, c'est qu'il y a un coin d'eux qui a sauté les plombs à un moment. Mais quand on voit qu'aujourd'hui, ces hommes qui sont devenus les hommes de paix et plus des assassins, ils vont dans nos cités de la bonté pour aider les gamins à planter des salades et à planter des arbres fruitiers.
Tu en as beaucoup comme ça, Marianne ?
Des exemples ?
Oui.
Eh ben alors, il faut être très modeste, parce que sur tous les gamins de la rue que j'ai vus, tous les gens que j'ai vus, eh ben il y en a plein avec qui on... Non, ça va pas du tout. Tous les assassins qui restent en prison, non, ça va pas. Et on met en prison tous les mecs qui ont fait des féminicides aussi. Mais on a aidé 2050 délinquants l'année passée, et je te disais, il n'y a eu que 15 récidives. Ça veut dire que c'est possible. C'est possible quand on croit que c'est possible.
Alors j'ai vu que depuis que tu as créé donc ton association, ton ONG, tu as eu 2 500 000 bénéficiaires.
Oui.
C'est incroyable, c'est énorme.
Ben, et surtout, c'est difficile de croire que c'est comme une famille. Mais on est tous les jours au téléphone. Hier, on avait un Zoom avec 25 coordinateurs. Hier, j'étais au téléphone avec les femmes des mines qui m'appelaient encore, et avec les responsables, parce qu'il y a un gamin qui fait des convulsions et tout le monde s'en est occupé. Mais quand on dit 400 000 bénéficiaires l'année passée, il y en a eu 150 000 qui étaient bénéficiaires de toutes les radios et télévisions. Et ça, c'est super important parce qu'on fait de la formation à la non-violence. Toutes les semaines, on a des émissions, beaucoup plus qu'ici, hein, de radio, de télévision, parce qu'on est hyper connus, puisque le gouvernement a fait appel à nous pour nos techniques et nos thérapies de transformer l'être. Parce que je vais dire un truc super important, c'est que je ne crois pas au développement social et économique s'il n'y a pas de développement intérieur profond. Et quand les gens sont cons, quand les gens sont ignorants, quand les gens ne savent rien, si vous commencez pas à les débloquer pour enlever leur traumatisme, on a fait ça en les faisant chanter. Chaque fois que j'allais, je les faisais exprimer.
C'est ça ta méthode, les faire chanter?
Ben oui.
Toi qui es une ancienne cantatrice?
Oui, parce que... ancienne, merci.
Non, tu es toujours cantatrice?
Ben, je chante tout le temps et je fais chanter tout le monde, surtout.
Mais mon Dieu, on ne te connaît pas assez. Tu vois, Marianne, j'ai commencé par ça. On
non,
te
mais
connaît pas assez.
Ben, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent mes stages de chant parce que je suis débordée. J'ai des centaines de demandes tout le temps. C'est des stages où on n'apprend pas à chanter, on apprend à transformer la boule noire de nos souffrances profondes en beauté. Et quand j'accompagne au piano en improvisant, ben les gens, je leur fais des techniques spéciales qui débloquent les diaphragmes, qui les ouvrent, et ils vont cracher le morceau de la souffrance qui les empêche d'exprimer leur plein potentiel. Et la chose qu'on veut tous, c'est être nous-mêmes, être à la hauteur de nous-mêmes et de la graine divine qui a été mise au fond de nous, c'est tout.
Ça fait réfléchir. Alors, moi, je reviens un peu à des statistiques parce que c'est quand même très important de voir l'énorme, enfin l'ampleur de ce que tu as fait. Donc, tu as 400 employés qui sont des ex-bénéficiaires. Donc, c'est-à-dire, en fait, tu as dans ton ONG, tu emploies des gens aujourd'hui qui ont été secourus
oui.
autrefois et qui sont devenus à même de secourir les autres. C'est un peu ça, et de passer le flambeau.
Oui.
Voilà.
Comme Mercedes qui dirige, c'est une des meilleures avocates du pays, c'est elle qui dirige les observatoires de la justice, c'est elle qui a fait des nouvelles lois avec mes équipes d'avocats qui étaient des gamins du début, ils ont fait 3 nouvelles lois qui ont été agréées par l'Assemblée législative qui a accepté des nouvelles lois pour protéger la femme et les enfants des mauvais traitements.
Oui, alors je vois aussi qu'il y a 125 000 bénéficiaires du microcrédit sans intérêt et que c'est 90% de femmes.
Ben, j'ai commencé à donner à tout le monde, mais la plupart des hommes là-bas boivent et maltraitent les femmes, donc on a arrêté. On en donne encore à quelques hommes, mais c'est surtout des femmes. Et à des jeunes, on donne aussi. Et c'est vrai que le microcrédit, ça veut dire que quand la femme a une nouvelle puissance économique, tout change. Et dès qu'elle a son argent...
Elle est respectée à ce moment-là.
Ben, elle est respectée, surtout, elle ose quitter une situation de violence terrible. Mais elle ne quitte pas parce qu'elle ne sait pas quoi faire. Puis on lui donne un microcrédit, elle se met à cultiver, se met à planter des arbres, des légumes, elle se met à faire du petit commerce, à fabriquer des aliments, à vendre sur la rue, puis elle est sauvée.
Alors il y a une chose que j'aimerais beaucoup que tu répètes parce que c'est incroyable, tu as une dizaine de tes jeunes ingénieurs agronomes qui en fait sont d'anciens bénéficiaires
oui.
de ton action et qui ont inventé les Wallipinas.
Les Wallipinas, mais tu sais
voilà.
tout Viviane.
Non
exactement.
Je sais pas tout mais je t'ai lu.
Tu t'es préparé en tout cas, merci. Oui, les Wallipinas, c'était une invention de nous ensemble avec ces gamins, c'était à Oruro et moi j'étais sûre que... Comme je vois la bouteille plus qu'à moitié pleine, je vois la bouteille pleine, je dirais, je me suis dit, c'est pas possible qu'il n'y ait pas une solution pour que dans toutes nos écoles qu'on soutient, des cinquantaines d'écoles, qu'ils ne puissent pas manger. Et même que parce que c'est à 4000 mètres sur l'Altiplano, 3008 au lac Titicaca, eh bien, On a trouvé la solution, en travaillant beaucoup, de creuser la terre 2,50 m, de mettre de l'humus au fond, une charpente en bois, et au-dessus, un plastique transparent. Donc le soleil, il passe à 180 degrés au-dessus, et il fait 30 degrés dans cette serre, à 4000 mètres, et on a 4 récoltes par année. Alors que rien ne pousse à l'extérieur, il fait moins 20. Donc ça a été comme miraculeux pour donner l'alimentation. Hier, j'avais les femmes qui ont des serres dans les mines où tout est contaminé. Elles récoltaient des salades énormes et ça change la vie des gens d'avoir de la nourriture vivante pour leur santé et l'apprentissage des études.
Et je vois aussi 80% d'économie en eau. Ça, c'est extraordinairement intéressant.
Oui, il y a un effet sauna qui fait qu'il y a des gouttes qui sont sur le plastique et qui retombent. Puis on a un système d'irrigation goutte à goutte aussi.
On va écouter Vivaldi.
Oui, très volontiers, parce que c'est la tempête. Et vraiment, je peux vous dire que ça a été la tempête de traverser, de voir tant de gens mourir, blessés, et peut-être une rage contenue. Parce que j'étais tellement en colère contre cette injustice que c'est ça qui m'a fait créer Voix Libre pour trouver des solutions. Donc ma colère, je l'ai transformée en sainte colère, ou je dirais en solution immédiate, c'est ça.
Alors on écoute Vivaldi.
Vivaldi, j'adore.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, dans la bouteille à moitié pleine, avec Marianne Sébastien, qui a reçu, vous le savez maintenant, un prix international des droits humains pour l'ONG qu'elle a fondée en 1993, une association internationale, humanitaire, politiquement et confessionnellement neutre, et qui s'occupe d'enfants dans les mines, d'enfants de la rue, d'enfants dans les ordures en Bolivie, qui s'occupe aussi des femmes battues, des femmes violées, des femmes qui ont subi la violence des hommes, et qui s'occupe aussi des hommes d'ailleurs, puisque parmi eux il y a des prisonniers avec lesquels, Marianne, tu as réussi à passer des contrats de bonne, comment dirais-je,
de paix.
De paix, oui. C'était pas facile, si j'imagine ça quand même. Et lorsque toi, une femme, tu t'es retrouvée dans ces prisons avec tous ces hommes violents, pas facile non plus, je pense.
Eh ben oui, je pense que pour moi tout a été facile, c'est ça mon problème. J'ai écrit quelque chose l'autre jour comme stratégie pour toutes mes équipes, et le titre c'était « Tout est facile ». Comme j'imagine, comme je ressens que tout est facile parce que je me sens guidée et je sens que le chemin est déjà là, c'est comme si on me précédait là où j'arrive et que tout est déjà prêt. Donc quand j'entre dans une prison de 500 mecs, j'ai pas peur et je sais qu'ils m'attendent et ils applaudissent tous et ils me font danser et on parle et c'est joyeux. Et je me suis jamais dit que c'était des assassins, alors que je sais qu'il y en a. Donc je regarde que ce qui me fait progresser, que ce qui peut nous aider et ce qui peut transformer la situation immédiatement. Je suis très dans le présent. Je suis comme une enfant, comme une artiste plutôt. Ça veut dire que quand on chante...
Je rappelle que tu es cantatrice.
Oui, donc ça veut dire que quand on chante, on est juste dans l'instant présent. Et on ne pense à rien d'autre. Donc pour moi, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. C'est juste là maintenant, avec toi, avec nos auditeurs. Qu'est-ce qui peut nous rendre meilleurs? Qu'est-ce qui peut faire que chacun d'entre nous va quitter sa petite sphère individuelle, familiale, pour se dire je peux aider plus loin, je suis capable d'aider aujourd'hui quelqu'un, un vieux qui a rien à manger dans ma maison, dans mon quartier, ou dans le monde, communiquer avec quelqu'un qui a besoin de moi, ou de donner de l'argent à une association ou à la nôtre si vous avez envie, parrainer un enfant pour agrandir votre famille, ou venir à une réunion un vendredi soir à voix libre, et on vous explique.
Alors, il faut bien expliquer ça. Venir à une réunion, c'est une très bonne idée, parce que je pense qu'il faut te rencontrer. On ne peut pas t'imaginer, si tu me permets.
Merci.
Malgré cette émission où on a essayé de te décrire, Marianne, tu as une telle richesse, une telle chaleur, une telle bonté dans les yeux. Je crois que j'ai commencé l'émission en parlant de ça. Mais il faut te rencontrer. Alors, c'est le vendredi soir et c'est aux grottes. Raconte
c'est,
ça.
C'est aux grottes 28, derrière la gare. On a même un parking.
Va doucement, parce que tu parles à toute vitesse.
Ouais.
Et on n'a même pas le temps de noter.
Ben, c'est aux grottes, à la rue des grottes 28, derrière la gare. Et nous vous attendons. Les portes sont ouvertes, à bras ouverts. Nous avons des bureaux, 4 arcades, nous avons des bureaux et une jolie boutique avec tout l'artisanat de Bolivie, d'Inde et d'ailleurs. Et il y a un apéritif dînatoire tous les vendredis à partir de 17h. On aura le temps de vous montrer des vidéos très courtes, d'une minute ou deux, de faire connaissance. Et si vous avez envie de parrainer, on vous expliquera comment ça consiste, quels enfants vous pouvez parrainer, ou si vous voulez prendre des microcrédits pour sauver une femme et sa vie et ses enfants. Ou si vous voulez soutenir un projet plus grand, comme financer une maison pour les enfants maltraités, les enfants orphelins d'une mère qui a été tuée, tout vous sera raconté.
Alors moi, je vais répéter, parce qu'on ne le répétera jamais assez, qu'on peut t'appeler, on peut te téléphoner.
Oui.
Au 022 733 0303, et que le mail c'est voix libre, alors voix libre, voixlibres, @voilibre.org. Très important de répéter tout ça, parce que je suis persuadée que beaucoup de personnes, entendant cette émission, auront à cœur de te rejoindre ou de
Merci,
te rencontrer
Viviane.
Et de t'aider, parce que ce que tu fais est absolument fantastique.
Mais vous pouvez aussi m'écrire à mon mail, marianne@voilibre.org, si vous voulez.
Alors, Marianne avec deux N.
Oui,
at
voilibre.org.
Voix libre, parce que quand tu dis ça à toute vitesse comme ça, on comprend Walid.
Voix libre.
voixlibres.org.
Exactement.
Donc on peut écrire à Marianne, on peut la rencontrer, on peut l'écouter. On ne l'écoutera jamais assez, on ne réalisera jamais assez l'immense travail qu'elle a fait depuis 25 ans, depuis qu'elle a créé cette ONG en 1993 et secouru des millions d'enfants. Moi, je reste quand même frappée par cet enfant dont je disais à un moment de l'émission, j'ai lu ce que tu avais donné comme papier, et on voit cet enfant qui est dans la mine, qui est à 1 km sous terre, qui ne voit jamais la lumière du jour. Tu parlais aussi d'un petit enfant de 8 ans qui devait allumer des mèches et qui ensuite s'en allait à toutes jambes, sur ses petites jambes, aussi vite qu'il le pouvait pour éviter d'être déchiqueté. C'est ça la réalité des gens que tu as secourus. Et évidemment, vu de Genève et de notre Genève prospère, même s'il y a des poches moins prospères, il y a quand même dans l'ensemble, les pauvres d'ici sont les riches de là-bas, je le pense.
Oui. Et on peut dire qu'on a éradiqué le travail des enfants dans les mines, mais il y en a tout le temps qui arrivent de nouveau. Parce qu'il y en a qui meurent de faim, ils pensent qu'ils vont trouver l'Eldorado. Le père est mort, comme il meurt à 32 ans en moyenne, donc on envoie le gamin. Et la semaine passée, On a fait un film, c'est Gabriel, un gamin du début que j'ai eu dans mes bras quand il avait 2 ans, que j'ai éduqué, qui aujourd'hui est cinéaste et photographe exceptionnel, qui est descendu dans la mine avec grand courage, 1000 mètres sous terre, pour filmer Adan, un gamin. On va mettre ce film sur notre site d'ailleurs. Donc ça continue. Et ce gamin, il pleure au fond de la mine 1 minute pour dire qu'il a peur de mourir, que son père est déjà mort et qu'il n'en peut plus et qu'il est mort de trouille. Et ce gamin, on l'a sorti le même jour, on l'a mis dans notre internat de gamins et on a donné un microcrédit à sa maman et il est sauvé. Mais ça veut dire que ça continue le supplice des enfants qui sont dans les mines.
Pourquoi les hommes meurent-ils à 32 ans ?
Mais c'est trop dangereux. De descendre dans les mines, j'ai eu la trouille de ma vie. Ça veut dire que ça s'éboule tout le temps. C'est comme un gruyère emmental. Le Cerro Rico, il y a eu 3 millions de morts. Donc quand ça s'éboule, ben, t'es pris dessous et t'es morte. Mmh. Ou bien tu respires des nappes de cyanure ou d'arsenic qu'il y a dans la mine et tu tombes.
Ce sont des mines de quoi ?
Ben, c'est des mines de... Il n'y a plus d'or, de l'argent, pas beaucoup. C'est surtout de l'étain, du zinc, du nickel. Et ça continue. Tous les matins, il y a encore une vingtaine de coopératives qui prennent ce minerai.
Marianne, on arrive hélas à la fin de cette émission. C'était trop court. C'était trop court de t'entendre. C'était trop court de... Voilà, de partager tout ce que tu nous as dit aujourd'hui, tout ce que tu nous as laissé entendre, tout ce qui nous a profondément ému, je dois dire. Et j'espère que tu vas être rejointe par beaucoup de nos auditeurs, parce que ce serait vraiment une belle chose si cette émission d'aujourd'hui avait servi à ça. Je te réinviterai, bien sûr, et on restera longtemps en contact, de façon à suivre tous ces enfants, toutes ces femmes, tous ces gens qui ont tellement besoin de toi et peut-être aussi un peu besoin de nous.
Merci infiniment, Viviane, pour ton regard si généreux. Et je me réjouis déjà d'accueillir des auditeurs vendredi, tous les vendredis à 5h.
Alors, on répète l'adresse.
C'est à la rue des Grottes 28, au haut de la rue des Grottes, derrière la gare de Genève, derrière la gare de Cornavin. Et on a même des parkings pour les gens. Et il y aura un apéritif dînatoire. Et on se réjouit beaucoup de vous accueillir pour tout vous raconter et soigner votre enfant intérieur. Parce que quand on s'engage à sauver un enfant du monde, notre enfant intérieur peut revivre et être libéré de choses inconscientes qu'il a supportées.
C'est une chose que tu as dit d'ailleurs qui donne... Tout reçoit tout.
Oui, et notre logo de Voix Libre, c'est garde toujours ta main dans la main de l'enfant que tu as été. Et je crois que c'est ça, Voix Libre. Merci beaucoup.
Merci à toi, Marianne. Merci à Olivier Steinmetz, notre réalisateur, qui nous permet de faire ces émissions. Et à bientôt, Marianne.
À bientôt, j'espère. Merci. Au revoir.